Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et Tech & Co, la quotidienne, on débrief l'actu tech, vous le savez, chaque soir pendant une heure, de 19h30 à 20h30, avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Salim Nassur. Salut Salim.
Bonsoir.
Salim qui est fondateur de Mars avec deux A, ne l'oubliez pas, et qui accompagne donc les entreprises qui veulent goûter à l'IA et surtout comprendre comment ça fonctionne. À tes côtés, Salim, c'est Christophe Honnête. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Christophe, vous le connaissez peut-être car ça a été l'une des têtes pensantes de Microsoft il y a quelques années de cela au niveau Europe, et aujourd'hui tu es Senior Advisor chez Seven2. Merci chaleureux d'être là mon cher Christophe, et nous avons aussi Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Bonsoir François.
Jérôme, journaliste tech, mon camarade de toujours, que vous pouvez écouter, regarder avec son podcast quotidien Monde Numérique.
Yes.
Voilà. Bah, écoutez, ravi de vous avoir tous les trois. On va tout de suite plonger dans l'actu avec ChatGPT qui reprend son indépendance après avoir injecté 13 milliards de dollars dans OpenAI. Microsoft donc perd son exclusivité de distribution d'OpenAI. C'est ce qu'ont annoncé donc les deux groupes hier soir. C'est la fin d'un mariage qui a lancé la révolution ChatGPT. Rappelez-vous, c'était en 2022. Anthony Morel nous racontait tout ça ce matin. On l'écoute et puis après, bien évidemment, on revient sur ce sujet avec nos débriefeurs.
Alors c'est une séparation à l'amiable, on pourrait dire un mariage qui se transforme en union libre d'une certaine manière, c'est-à-dire que les deux entreprises dont les destins sont liés depuis 2019 vont quand même continuer à travailler ensemble, simplement l'exclusivité qui les liait n'existe plus, et ça change pas mal de choses. C'est-à-dire que concrètement, jusqu'ici, quand une entreprise ou quand une administration voulait utiliser ChatGPT à grande échelle, bah, la porte d'entrée naturelle, c'était Microsoft, c'était les serveurs de Microsoft et Microsoft Azure. Désormais, OpenAI pourra proposer ses modèles ailleurs, c'est-à-dire via par exemple Amazon Web Services, Google Cloud, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de monopole commercial. C'est une séparation qui avait déjà commencé au mois d'octobre, ils avaient commencé à desserrer un petit peu les liens, c'est-à-dire que chacun avait récupéré le droit de travailler avec d'autres entreprises d'intelligence artificielle. On sait aussi qu'OpenAI travaille sur des appareils connectés avec de l'IA embarqué, par exemple sur des smartphones, et ça ne se fera pas avec Microsoft. Donc on sentait déjà que la séparation arrivait, et ça acte un changement d'époque, c'est-à-dire que Microsoft a aidé OpenAI à décoller. Ils ont quand même investi 1 milliard de dollars en 2019, donc à une époque où personne ne parlait d'intelligence artificielle dans le grand public. Ils ont cru au projet très très tôt. Aujourd'hui, clairement, OpenAI, c'est plus une start-up, ils n'ont plus vraiment besoin de Microsoft, ils veulent contrôler leur propre destin. Alors on pourrait se demander pourquoi Microsoft accepte une séparation dans laquelle ils ont tout à perdre, mais en fait ils n'ont pas vraiment intérêt à se fâcher avec leur ancien petit protégé, et puis surtout, ils ont déjà bien rentabilisé leur pari, que ce soit en termes d'image, de revenus cloud, et puis cette participation de 13 milliards de dollars, le total de leurs investissements. Bah clairement, s'il y a une introduction en bourse à un moment, ils vont les faire fructifier assez largement.
Voilà donc, OpenAI s'émancipe, c'est bien ça, hein. Microsoft ne sera plus l'unique client finalement d'OpenAI. OpenAI va pouvoir voler de ses propres ailes. On sait que Amazon a approché OpenAI il y a quelque temps de cela. Microsoft avait tiqué à l'époque. Et bien maintenant, ils pourront plus tiquer puisqu'ils auront le droit. Enfin, en tout cas, OpenAI aura le droit de passer des accords avec Amazon, mais avec d'autres aussi, hein, d'autres géants de la tech qui pourraient avoir besoin en fait des services d'OpenAI. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est plutôt une bonne opération pour OpenAI ou est-ce que c'est pas forcément une si bonne opération. Christophe, tu as ton avis là-dessus ?
Oui, moi
et après, ça serait intéressant d'avoir justement les points de vue de Salim et de Jérôme.
Moi, j'ai un avis pour dire que ce divorce, il est clairement gagnant pour Microsoft. Et je n'ai pas un biais particulier. Je dois dire que je me suis demandé si c'était la maestria de la négociation en position de force ou le fait que OpenAI soit, à mon avis, un peu plus aux abois. Mais Microsoft, de toute façon, voulait s'émanciper lui-même d'OpenAI, puisqu'il a plutôt la vision de commoditiser les LLM pour pousser les agents et se mettre au-dessus. Il a profité au début du fait qu'OpenAI était la star pour se positionner sur l'IA et ne pas prendre du retard. Mais là, dans le deal tel qu'il est passé, effectivement, OpenAI peut vendre au travers, peut trouver de la distribution à travers Amazon, à travers Gemini ou que sais-je, enfin Gemini c'est peu probable, mais d'autres acteurs, donc ça ils peuvent le faire, c'est positif pour eux. Mais du côté de Microsoft, eux, ils avaient à reverser 20% des revenus qu'ils faisaient autour d'OpenAI, ils n'ont plus ça, ils vont continuer à toucher 20% des revenus sur OpenAI, de ce qu'ils vendent sur la plateforme et de ce qu'OpenAI vend sur les autres plateformes.
Jusqu'en 2030.
Y compris sur les acquisitions potentielles que OpenAI ferait. Donc, ils sont libérés d'un certain nombre de, de contraintes financières. Ils vont toucher.
Enfin, ils sont plus menottés, mais ils ont quand même une menotte accrochée.
Oui, oui. Enfin, c'est plutôt, à mon avis, OpenAI qui les a. Et l'autre élément, c'est que moi, je considère qu'OpenAI aujourd'hui, quelque part, la concurrence, elle est arrivée un peu plus vite que ce qu'on avait vu dans le passé, lorsque Google s'était imposé sur le marché des moteurs de recherche, ou lorsque Facebook était devenu la star des réseaux sociaux. Là, on a quelque part une sorte de peloton de tête dans lequel il y a effectivement OpenAI, mais pas seulement, il y a Anthropic, il y a Gemini, et ils n'ont pas forcément toutes les ressources que les autres concurrents ont, ils n'ont pas de vache à lait pour pouvoir les financer. Il faut qu'ils arrivent à montrer leur propre sustainabilité, leur propre soutenabilité de leur modèle juste avec les LLM. Aujourd'hui, pour 25 milliards de revenus, ils font 13 milliards de pertes, et comment arriver à pouvoir, et il faut qu'ils atteignent leurs objectifs. On commence à voir qu'ils ont du mal à atteindre même les cibles de chiffre d'affaires qui s'étaient données en interne. Donc c'est quand même beaucoup plus tendu dans un contexte où il faut absolument qu'ils lèvent des fonds. Et donc, moi, je pense que leur futur est quand même assez compliqué, et que Microsoft a fait un deal pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que bah, finalement, je vais garder 27% de la boîte, je vais prendre 20% des revenus jusqu'à l'horizon 2030. S'ils atteignent leurs objectifs, ils vont faire 200 milliards en 2030. Bah, 20%, c'est pas mal. Plus le pourcentage dans la boîte. Et puis si ça marche pas, bah, je vais continuer à développer. Je vais commoditiser encore plus fortement les LLM. Donc pour moi, c'est un accord.
C'est plutôt Microsoft qui est gagnant de cet accord, en tout cas de cette nouvelle liberté d'OpenAI. Alors que sur le papier, on peut se dire que pour OpenAI, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Qui enchaîne, Jérôme? Après Salim, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec Christophe?
Bah, j'écoute avec attention Christophe, que je trouve que c'est un avis très éclairé, mais que spontanément, effectivement, j'aurais pas partagé, parce que non, moi je suis plutôt avec une vision un peu plus basico-basique. Et comme tu dis, sur le papier, on a l'impression que c'est quand même OpenAI qui s'émancipe. Alors après, si je comprends bien aussi ton interprétation, c'est de dire que finalement, ça va pas si bien que ça pour OpenAI, et que du coup, Microsoft a peut-être intérêt à s'en débarrasser d'une certaine manière. À s'en distancier, voilà.
Ça, je pense.
Bon, OpenAI fait un pari, c'est de pas prendre le bouillon aussi vite qu'on l'imagine.
Non, mais pour eux, de ce point de vue, c'est positif, parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à une distribution en dehors.
Quand même.
Mais oui, même. D'accord. Mais le problème de fond demeure. Et pour Microsoft, eux, quelque part, ils se détachent d'OpenAI. Ils n'ont plus ces contraintes de pourcentage additionnel à donner. Ils ouvrent aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, le fait qu'ils sont en train de créer leur propre puce Maya en concurrence potentielle avec Nvidia, et OpenAI leur imposait de tourner sur Nvidia. Ça a sauté également. Donc il y avait tout un ensemble de clauses qu'ils ont profité pour dégager d'un accord qui était un peu compliqué.
Après, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est cette idée de commoditiser les LLM, parce qu'effectivement c'est la petite musique là qui est dans l'air.
Oui.
On a l'impression que c'était la révolution qui allait tout manger, et puis en 3 ans on en est déjà à se dire bon bah finalement c'est acquis, c'est banalisé, les Chinois qui arrivent avec DeepSeek qui font la même chose ou mieux, pour pas grand chose, pour pas cher. Effectivement, autant les années 2024 et un peu 2025 ont été incroyables pour OpenAI, qui était sur le toit du monde. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont en train de dégringoler dans les escaliers un petit peu.
Salim, alors, est-ce que tu es d'accord avec la vision de Christophe? Est-ce que ce deal, finalement, qui s'arrête, mais une nouvelle aventure qui commence pour OpenAI, qui se retrouve émancipée finalement, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose pour OpenAI?
Ça vous étonne, je suis d'accord avec tout le monde.
c'est étonnant parce que d'habitude tu dis, je suis pas d'accord les gars, je suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Cela dit, non, après il nous reste plein d'autres sujets où peut-être que tu seras pas d'accord.
Non, blague à part, il y a les deux en fait, parce qu'il n'y a pas, de mon point de vue encore une fois, ça n'engage que moi, mais il n'y a pas un grand gagnant et un perdant dans les deux. Les deux sont gagnants quelque part. Et ils sont tellement gagnants que c'était écrit dès le départ. Quand on regarde le contrat, ils devaient s'émanciper à un moment. Là où, c'est rigolo parce qu'ils n'en parlent pas tellement, c'est là où ils devaient s'émanciper, c'est quand ils auraient atteint l'AGI, donc cette fameuse intelligence artificielle générale.
Qui n'arrive pas.
Qui n'arrive pas, mais qui a
ou
disparu.
Qui est déjà là.
Non, mais
on sait pas.
Si on regarde, parce qu'il y a eu des insights, il a disparu en fait du contrat. Ce petit point a disparu. Donc ils peuvent s'émanciper avant d'avoir atteint l'AGI. Donc ça, c'est un premier truc qui est intéressant. Et là où je rejoins effectivement complètement, alors c'est gagnant, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est gagnant pour OpenAI. Mais là où je rejoins complètement Christophe, c'est que c'est gagnant, bien sûr, pour Microsoft aussi. Et là où ça me paraît hyper évident, mais c'est rigolo parce que je le disais déjà, et ça vient pas de moi, moi j'avais entendu ça par Sundar Pichai, qui était mon boss chez Google, qui disait, l'IA, ça va être comme l'électricité. Et donc, dans cette notion de commoditisation, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle est liquide et c'est plus quelqu'un qui est propriétaire. C'est l'IA, de toute façon, et je le dis toujours, moi, à des dirigeants avec lesquels on bosse, c'est qui me disent, c'est quoi le ROI? Je dis, mais c'est quoi le ROI de l'électricité? Si demain, tu éteins l'électricité, ton entreprise, elle ne marche plus. Donc aujourd'hui, si tu éteins l'IA, ton entreprise, ça va être plus compliqué. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau d'un Microsoft, puisqu'ils ont signé un accord avec Anthropic récemment, c'est de se dire, je vais commencer à mettre un peu d'OpenAI, un peu d'Anthropic, donc on commence à comprendre ce qu'est l'orchestration. Et au niveau des entreprises, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a plus un LLM majeur, qui va être juste OpenAI, ou demain Copilot, ou encore un Gemini. C'est comment j'arrive à orchestrer tout ça. Et ça, on l'avait déjà vu à l'époque du cloud, en fait. Moi, à l'époque où j'étais chez Google Cloud, donc ça ne s'appelle plus comme ça, mais il y avait un projet qui s'appelait Anthos. Et Anthos, c'était quoi? C'était de dire, on sort du lock-in, en fait, des vendeurs, en fait, et on se dit, bah, on peut prendre un peu de cloud un peu partout. Donc là, en fait, c'est en train de se rejouer la même chose sur l'IA, c'est de se dire, on a un orchestrateur, donc il y a des boîtes comme ça, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez NumSpot, qui est une boîte française, qui fait ça. Donc ils orchestrent et ils vont aller choisir les bons morceaux de cloud, de compute, d'IA.
Les bons LLM.
Voilà, les bons LLM. Et si, par exemple, tu es dans une entreprise, et ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises françaises, où tu veux garder ta souveraineté, ben, ils vont t'isoler cette partie de data sensible, où tu vas garder ta souveraineté. Donc, c'est ça qui est en train de se jouer. Et je trouve que, finalement, les deux sont gagnants, si ce n'est que Microsoft a des reins un peu plus solides qu'un OpenAI pour tenir dans la durée.
Et, alors, parce qu'on parle d'émancipation d'OpenAI, ce qui va être intéressant, c'est quels sont aujourd'hui les clients potentiels d'OpenAI dont ils n'avaient pas accès auparavant avec ce partenariat. On parlait d'Amazon. Est-ce que vous en voyez d'autres?
Il y a des grands groupes. Tu vois, il y a des grands groupes. Et d'ailleurs, c'était un moment des sujets de
fatigue. Avant, ils ne pouvaient pas. Oui, mais passer des deals avec des grands groupes.
Ils vont devoir travailler avec un cloud provider. Ils vont pas vendre à.
Oui, mais regarde, sur la partie IA, si tu veux, il y avait eu. Alors, directement. Je sais plus, je crois que c'était. Je sais plus si c'était Accenture. Non, c'était un autre. Une grosse big firm où OpenAI avait vendu et ça avait fait un plaquage avec Microsoft parce que justement, ils auraient préféré que ce soit que du copilot derrière, etc. Donc aujourd'hui, ils vont aller vers des grands groupes. Ils vont être en frontal face à du copilot sur la partie IA. Par contre, ils n'auront toujours pas l'infrastructure parce que ce sera du Azure, du AWS. Et là, on revient justement sur ces schémas de grands orchestrateurs.
En fait, c'est plus que des clients, c'est des prestats, c'est des fournisseurs. Enfin,
il y a deux choses. Il y a l'infrastructure cloud pour faire tourner OpenAI. Il n'y avait que Azure avant. Maintenant, il peut y avoir Azure et Amazon, pour simplifier. Okay. Mais précédemment, ils pouvaient très bien... D'ailleurs, c'est leur voie de sortie. Au jeu, il faut qu'ils développent le B2B. Ils ne peuvent pas rester... Pour développer le B2B, ils sont en concurrence avec Copilot.
Ouais, alors pas que. Attends, je me permets.
Entre autres.
Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a ça, mais il y a la couche, la surcouche, si tu veux, qu'on ne voit pas, qui est la couche service. Et en fait, aujourd'hui, aussi bien un OpenAI qu'un Anthropic, ils sont en train de développer des équipes qui vont apporter cette couche service que faisaient des Capgemini avant.
Mais Ou un Palantir,
exactement. Parce que ces entreprises de conseil ne comprennent plus tellement. Et donc aujourd'hui, tu as cette nouvelle couche de service qui vient justement orchestrer au niveau des entreprises.
Quand OpenAI cherche à vendre à des grandes entreprises, il est concurrent potentiel de Copilot.
Ah, mais complètement, exactement.
Il tournait sur Azure, mais pour en plus tourner sur Amazon.
Exactement.
C'est ça la différence.
Exactement.
Bon, écoutez, peut-être qu'un jour Sam Altman déclarera si cette émancipation est plutôt une bonne chose ou pas.
De toute façon, Sam Altman, tu sais, il peut te dire blanc.
Oui,
ou ouais, c'est ça. Sachant qu'on n'a pas parlé de la partie open source. Parce que quand on parle de commodité, forcément, tu as du closed source qui va être là et tu as de l'open source. Donc, pareil, dans les boîtes aujourd'hui, c'est. Et tu le disais, il y a des modèles chinois qui font 90% du job pour beaucoup moins cher. Donc, c'est ça aussi où il va y avoir un arbitrage. Est-ce que je prends quelque chose de propriétaire qui coûte une blinde ou est-ce que je prends quelque chose de...
Open source, qui coûte beaucoup moins cher.
Un peu moins, sur certains...
En faisant confiance à un LLM chinois. Aussi,
avec une confiance moindre, effectivement. Mais en fonction des différentes criticités sur la tâche, tu vas arbitrer, en fait.
Tech & Co, il est 19h45 sur BFM Business. Merci d'être là. Toujours Christophe Honnête, toujours Salim Nassur, Jérôme Colombin. Tiens, Salim, tu auras sans doute pas mal de choses à dire concernant notre premier sujet, prochain sujet, puisqu'on va parler de Google. Rappelons que tu avais un poste très important chez Google il y a quelques années. Google, donc, a signé un accord confidentiel avec l'armée américaine. C'est le média The Information qui le révèle. Le Pentagone veut utiliser l'IA de l'entreprise dans le cadre de missions classifiées. On est en train de revivre un petit peu l'épisode Anthropique et OpenAI il y a quelques temps. Et chez Google, c'est ça qui est intéressant, de nombreux cadres, plusieurs centaines visiblement, s'insurgent. Erwan Morris nous explique tout ça et puis on revient après sur le plateau de Tech & Co.
Dans une lettre ouverte, plusieurs centaines de cadres de Google réclament que l'entreprise renonce à fournir à l'armée américaine ses modèles d'intelligence artificielle pour des opérations classifiées. Pour ses salariés, directeurs et même vice-présidents, hors de question d'être associés à des affaires controversées. Il n'y a aucun moyen de s'assurer que ces outils ne seront pas utilisés pour faire de terribles dégâts ou pour rogner les libertés individuelles, s'inquiète un employé. Nous souhaitons que l'IA soit au service de l'humanité et non qu'elle lui nuise, écrivent les signataires, dont certains opèrent chez DeepMind, le cœur du réacteur IA de Google. Depuis plusieurs mois maintenant, l'administration Trump presse les géants de la tech de lui donner accès à ses modèles afin de bénéficier d'avantages stratégiques dans les conflits, mais pas sans rencontrer quelques résistances. Anthropic, qui a refusé en début d'année de donner l'accès de son IA au Pentagone, a vu 200 millions de dollars de contrats annulés par le gouvernement, associé à l'interdiction de travailler avec des agences fédérales. Mais le positionnement de la start-up avait dopé sa popularité et renforcé le sentiment de confiance de ses utilisateurs.
Alors c'est un sujet très intéressant parce qu'il est sensible, surtout en ces périodes où on va dire la géopolitique, nous en apprend tous les jours. On est en période de guerre, de conflit, et est-ce que ces grosses boîtes américaines prennent part dans des accords avec des gouvernements? On en a parlé avec Anthropic, on en a parlé avec OpenAI, maintenant c'est Google. D'un côté, c'est tellement logique que Google, finalement, se rapproche, en fait, du gouvernement et du Pentagone pour des solutions d'IA, hein. Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser à l'épisode Boston Robotics il y a quelques années. Je sais pas si vous en souvenez. Peut-être que Salim, tu peux nous raconter ça. On revit à peu près la même histoire. Alors évidemment, c'est un autre sujet, mais qui était hyper sensible déjà à l'époque de chez Google.
Alors, ouais, t'as raison, il faut revenir un petit peu en arrière. Si on revient un peu en arrière, alors pour ceux qui savent pas, moi j'ai passé presque 10 ans, un peu moins, chez Google. Et entre 2012 et 2013, Google a racheté à peu près tout ce qui se faisait de bien, et dans l'IA et dans la robotics. Et notamment, il y avait donc Boston Dynamics, si tu veux. Et mais il y avait aussi DeepMind. Cette année-là, ils ont racheté DeepMind. Donc la couronne du joyau, quand même.
Et Boston, rappelez-vous, c'est ces fameux chiens.
Ces chiens, mais aussi
incroyables
avec Atlas.
Voilà.
C'est un robot.
Bien sûr.
C'était le nec plus ultra de ce qu'il y avait. Et déjà, à l'époque, c'est rigolo, parce que moi, j'en parlais avec mon ancien boss d'Orange. Je lui disais, mais enfin, il n'y a que moi qui vois ça. Mais si tu mets un humanoïde hyper puissant avec une IA hyper puissante dessus, t'as un truc qui commence à ressembler à un Terminator et qui peut aller vers du militaire, si tu veux. Et justement, à un moment, Google s'est débarrassé de Boston Dynamics parce qu'il y avait des polémiques, parce que...
Ils se sont débarrassés de ça parce que c'était un sujet qui commençait à sentir mauvais, finalement. Voilà. Mais surtout, et qui pouvait altérer leur image.
Complètement. Mais surtout, là, ce qu'on revit aujourd'hui avec ces centaines de signatures, et moi, j'étais à l'époque chez Google, on était des milliers, si tu veux, avoir signé une pétition, justement, pour un projet qui s'appelait Projet Maven, 2018. Hein. Mmh. Déjà, en fait, si tu veux, Google a basculé déjà vers 2016 avec un changement de stratégie, un changement de, tu vois, c'est là où Larry et Sergey, les fondateurs, commençaient à se retirer un peu.
Ouais, à prendre du champ.
Voilà. Et donc, en 2018, il y a eu la même chose qui se produit maintenant, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, une grande partie de chez Google s'est mis en grève contre le projet Maven. Et le projet Maven, c'était quoi? C'était, ben, mettre de l'IA sur des drones armés de caméras pour pouvoir faire de la surveillance, en fait. Donc.
C'était pas bien méchant,
mais déjà.
Enfin, par rapport à ce que. Non, mais ce que je veux dire par là, par rapport à ce qui arrive là.
Oui, mais d'accord, mais c'est le début. C'est-à-dire
qu'à un moment, pour remettre un peu dans le contexte.
Non, mais bien sûr. Mais déjà, si tu veux, il y avait une lettre qui était partie justement à Sundar, en lui rappelant, Google, à la base, c'est don't be evil. Donc, ne soyez pas diabolique, quoi, quelque part. Et finalement, l'entreprise.
Ce slogan en a pris un coup, là.
Qu'il a pris un coup, c'est qu'il n'est plus là, en fait. Ouais. Le slogan aujourd'hui, c'est do the right thing.
OK.
Alors, qu'est-ce que c'est, le right thing?
C'est un peu plus pragmatique.
Bah, c'est plus pragmatique.
Moins romantique.
Parce qu'à partir du moment où t'as les fondateurs, à partir du moment où t'as les fondateurs qui sont en recul, do the right thing, c'est peut-être make more money. Hein, tu l'interprètes comme tu veux.
Bien sûr.
Donc, à un moment, c'est te dire, ben, justement, là où à un moment, en 2018...
Oui, do the right thing pour les actionnaires, par exemple.
Voilà, exactement. Ils avaient retiré ce projet. Donc, Google s'était retiré. C'était
Ken
Green à l'époque.
Donc, la communauté de Google avait gagné, finalement.
Avait gagné.
Face à la direction.
Exactement, face à la direction. La direction a retiré. Mais au final, ils se sont rendus compte quoi? Ben, qu'est-ce qui s'est jeté sur les contrats Microsoft, Amazon? Donc, aujourd'hui, ils se disent, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que justement, do the right thing, c'est make more money. Et donc, à la fin, bah, y a quelque part, bah, se dire, bah, si on ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et on l'a vu, hein, au niveau de l'investiture de Trump, ils sont tous au garde à vous derrière Trump.
Est-ce qu'on sait la teneur? Alors, j'imagine qu'on ne sait pas tout, et loin de là, mais quel est le type de contrat que Google a passé avec le Pentagone?
Justement, tu réponds, je dis juste ça. C'est tout le sujet. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus.
Non, mais c'est ça, toujours. C'est ça.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans un truc qui est classified, et je l'avais déjà dit au moment de l'Open, de l'IA Act européen, ne pas savoir ce qu'il y a dans les modèles, c'est dangereux. Mais maintenant, en plus que ça va être classified, c'est moi, ça me fait très, très
peur. Oui, mais ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec Anthropic, parce qu'effectivement, ça inclut l'utilisation de l'IA pour la planification de missions, le ciblage militaire, etc. Mais il y a des garde-fous, apparemment, comme pour Anthropic, dès lors qu'il s'agirait de développer des outils de surveillance de masse ou des armes autonomes.
Donc, c'est pas une IA létale. C'est pas létal. Alors, en principe, dans l'absolu.
Google pourra dire s'il est d'accord ou pas au moment où l'armée dira tiens, on voudrait bien utiliser votre truc.
On va tuer des gens. Vous êtes d'accord, Google,
voilà,
ou pas?
Exactement. Oui, mais c'est super important parce que, effectivement, comme dit Saline, le truc, c'est est-ce qu'ils seront informés? Est-ce qu'ils auront toutes les billes pour décider? Est-ce qu'ils pourront décider? Mais moi, ce que je trouve, c'est que cette histoire-là, il faut la remettre dans le contexte très immédiat de ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a 8 jours exactement, je crois que c'était le 18 avril très précisément, ça entre complètement en résonance avec le fameux manifeste de Palantir, le truc de, comment il s'appelle, Axel Karp, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans lequel il expose en 22 points comment, de toute manière, la tech doit se mettre au service de la défense de la démocratie, même si c'est de manière un peu autoritaire, de la défense des États-Unis, et notamment comment la Silicon Valley doit, c'est le message qu'il veut faire passer, doit s'investir pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est patriotique, mais aussi parce que c'est une manière de rendre au pays et à l'État tout ce que l'État lui a donné, lui a permis de se développer, etc. Donc ça, c'est très américain. Et c'est exactement ce que préconise Axel Karp dans ce manifeste, et comme par hasard, une semaine après, Google dit « Ouais, bah, finalement, on va y aller aussi. » Donc, ils s'alignent, à mon avis, ils vont pas être les derniers à annoncer ça. Hein.
Christophe.
Bah, moi, ce qui me effectivement, je fais le parallèle entre 2018 et aujourd'hui, et je me dis, finalement, est-ce que Google est moins moral ou plus moral, je sais pas, et je pense que ça pose la question de savoir est-ce que les entreprises vont avoir une morale ou pas. Je pense qu'une grosse différence entre 2018 et 2026, c'était le Trump 1 et là c'est le Trump 2 et pas du tout la même chose en termes de volonté de soumettre les acteurs.
L'armée n'est pas par principe immorale non plus. Oui. Non, elle peut être amenée à faire des choses un peu hardos, mais bon, elle n'est pas là non plus.
Mais je pense que.
Semble-t-il.
Enfin, je pense que la bonne chose, c'est de se dire, dans une communauté d'individus, on définit des lois, et ce qu'il faut, c'est respecter les lois. Je pense que ça me paraît être, de ce point de vue, la bonne approche.
Juste pour revenir à ce que dit Axel Karp dans son manifeste, il dit, de toute façon, la question n'est pas de savoir si on doit, ou si on veut, ou si on peut développer des armes pilotées par IA. La question, c'est qui va le faire en premier.
Oui, c'est ça.
Et il ne faut pas qu'on soit les derniers à le faire.
C'est tout le problème. Effectivement, par rapport aux Chinois, en fait, c'est devenu un enjeu géopolitique majeur.
C'est rigolo ce que tu dis. Ça me fait penser à ce qu'a dit, je parlais tout à l'heure de DeepMind, mais Demi Sassabi, donc, qui est le boss de DeepMind, et qui est vraiment quelqu'un de très très puissant que j'admire énormément. Il disait dans un podcast récemment, et tu vois, il parlait justement de cette course à l'échalote qui est partie, et il dit, moi, le truc qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est qu'en fait, on était à deux doigts de faire des vrais trucs majeurs pour l'humanité, à savoir sauver le cancer, éradiquer le cancer,
ou faire ce genre de choses. Mais là, n'empêche
pas l'autre. Si, quelque part, parce qu'en fait, tous ces cerveaux, aujourd'hui, ils sont d'un point de vue monopolisés pour faire du commercial, entreprise. Moi, j'adore, je suis dans le monde de l'entreprise, on fait plus de trucs. Tu vois, des choses qu'on avait à l'époque chez Google en directional, comme on dit, c'est-à-dire une tendance vers laquelle on voulait aller, on savait que ça allait prendre du temps. Aujourd'hui, ça arrive aujourd'hui parce qu'ils ont mis beaucoup plus de ressources. De même côté, il y a plus de ressources sur l'armée, mais quand tu as plus de ressources sur l'armée et plus de ressources sur le commercial, bah, tu as moins de ressources pour la santé, pour des choses qui sont plus fondamentales. Tu vois, et donc, au lieu de sauver l'humanité, tu la pousses un petit peu vers sa perte.
Tu as travaillé chez Google, tu connais un petit peu la posture. Comment va réagir Google? Parce que tu te mets à la place d'un Sundar Pichai. Il peut pas dire non à Donald Trump.
Ah non.
On est d'accord.
Enfin, il peut plus.
Il peut plus, voilà. Parce qu'il y a tellement d'enjeux. Si maintenant Google est dans le collimateur du gouvernement américain, c'est une catastrophe. Donc il peut pas dire non. Il a 600 de ses cadres derrière.
600, c'est pas grand-chose.
Non, c'est rien.
Mais c'est rien du tout.
Non, mais d'accord. Apparemment, ce sont des chercheurs quand même. Hein. C'est positionné
non,
comme
mais
étant.
Ils ne changeront pas.
Tout dépend du bruit que ça fait finalement.
Non,
tu vois,
non,
c'est ça la question.
Non, là, c'est over.
Donc
c'est game over.
C'est cuit.
C'est cuit parce qu'encore une fois, et ça, il y a vraiment eu ce shift en 2016 hein, chez Google. C'est marche ou crève en fait. Okay. Y a plus de. Avant, c'était une entreprise où il y a beaucoup de discussions et beaucoup de choses. Là, c'est comme on dit, comme à l'américaine, c'est my way or the highway. Et ça, donc, ouais. Soit tu me suis, soit tu prends la porte. Mais il n'y a pas tellement de champs de discussion, en fait. Donc,
c'est amusant parce qu'on a parlé d'OpenAI dans cette histoire de collaboration avec le Pentagone. On a parlé de.
Je te dis, ils vont tous y aller.
On n'a pas parlé de Microsoft.
Non, mais regarde. Ah, ils ont, comme ils sont pas.
Et pourtant, Microsoft doit avoir des accords forcément avec la défense américaine.
En fait, on en parle parce qu'il y a quelques voix qui s'élèvent pour s'opposer.
Oui,
mais sinon, effectivement, sous main, il y a plein de choses qui.
Mais bien sûr, évidemment.
Mais tu vois,
évidemment.
Quand je regardais d'ailleurs la belle silhouette de Jérôme, je voyais des images de porte-avions, de Pentagone derrière toi. J'ai les mêmes derrière moi. Et je pensais pas qu'un jour, quand j'ai commencé ma carrière dans la tech,
que j'allais associer Google. Autant,
Non, mais même pas Google, mais que je suis allé autant parler de militaires, de danger pour des citoyens, pour l'humanité, alors qu'à la base, la tech, c'était sympa, tu vois. Ouais. Et là. Un peu moins.
Oui, mais attendez, c'est un peu exactement le même problème que le nucléaire. Quoi. Là, on revient vraiment sur l'idée que l'IA, c'est un peu comme le nucléaire, c'est à la fois le pire et le meilleur, qui est certes, il faut l'encadrer.
Plus dangereux.
Il va peut-être falloir faire un peu limiter la course aux armements, mais on en a besoin. Ça va également faire partie de la force de dissuasion.
Ouais. Sûr, non, mais ton analogie est bonne avec le bémol, et moi, c'est ce que je dis depuis le début, hein, c'est-à-dire que c'est comme le nucléaire. En plus dangereux. Pourquoi ? Parce que déjà...
Le nucléaire, ça peut être dangereux quand même.
Oui, mais le nucléaire est contrôlé par quelques nations et quelques personnes dans ces nations. L'IA, aujourd'hui, c'est contrôlé, c'est plus contrôlé, en fait. Parce que même derrière tous ces grands titres, aujourd'hui, si tu prends un modèle en open source, tu peux faire beaucoup de choses et beaucoup de mal.
De plus en plus.
Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de l'uranium enrichi pour faire ça.
Oui,
tu as juste besoin
d'entrée est un peu moins cher.
Tu as juste besoin de faire la bécane dans ton garage. Et donc, c'est beaucoup plus... Tu vois, la prolifération, elle va être beaucoup plus importante que le nucléaire.
Fabriquer un réacteur nucléaire dans son garage,
c'est plus compliqué. Plus compliqué et l'alimenter encore plus.
C'est sûr.
Tu as les terroristes du Mali là, qui se mettent à acheter des robots à la Chine, et hop, je te fais mon armée de drones.
Ou les narcotrafiquants qui font des sous-marins.
Ce qu'a fait l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, ces derniers mois.
Ils ont résisté grâce à ça, entre autres.
Il est bientôt 20h, les amis. Salim, Christophe, Jérôme, on revient dans un instant, juste après cette petite pause pour la suite de Tech & Co, la quotidienne. Et on va parler de véhicules électriques et notamment du côté de la Chine avec BYD. Petit passage à vide pour le géant de la voiture électrique. On en parle dans quelques instants. À tout de suite et merci d'être là sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.